Bien-aimés, nous avons chanté, aimé Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour ami, pour maître et pour breuvage et pour pain, savourer ton paix, ta grâce, de ta mort, puissant sauveur, goûter la sainte efficace, quelle ineffable douceur. En chantant ces paroles, le Seigneur m'a fait penser à ces Grecs de Jean 12 qui désirent voir Jésus et qui vont apprendre en effet ce qu'est cette mort, cette grâce. Ils vont réaliser ce qui correspond aux besoins de leur cœur. Lisons ces quelques versets dans Jean 12. Lisons au verset 20, or il y avait quelques Grecs d'entre ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ceux-ci donc vinrent à Philippe qui était de Bethsaïda de Galilée et ils le priaient disant, Seigneur, nous désirons voir Jésus. Je souligne cette expression, nous désirons voir Jésus. Philippe vient et le dit à André, et puis André vient à Philippe, et ils le disent à Jésus. Jésus leur répondit, disant, « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme me soit glorifié. En vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui affectionne sa vie la perdra, celui qui hait sa vie dans ce monde-ci la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis moi, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honore. Ces Grecs, certainement, avaient entendu dire quelque chose de la résurrection miraculeuse de Lazare. Ils savaient aussi qu'on jetait des palmes sur le chemin du Seigneur Jésus et que l'on criait « Hosanna » dans ce moment-là, avant de crier plus tard « Oh, tu crucifies-le ». Mais ces Grecs, de toute façon, désiraient voir Jésus. Il me semble que cette expression est touchante. Il me semble qu'elle est actuelle. Chers amis, sommes-nous venus cet après-midi pour voir Jésus. Avec les yeux de la foi, cela s'entend bien sûr. Nous désirons voir Jésus. Ah, si tous ceux qui ont vu la Bible ouverte dans la famille, comme dans les assemblées, se rencontrer autour de Jésus, chez Jésus, avec le désir de le voir et de l'entendre, il y aurait solution à beaucoup de problèmes. Nous désirons voir Jésus. Et puis, ce qui est touchant, c'est que ces Grecs, ils viennent à Philippe, qui était de Bethsaïda, et ils le priaient, disons. Et puis Philippe vient, le dit à André. On attend que le nom de disciples qui sont disponibles. Suis-je disponible pour conduire quelqu'un à Jésus? C'est très beau, cela. Ces deux disciples sont disponibles. Ils vont conduire ces Grecs à Jésus. Et il y a dans ce chapitre et dans celui qui précède et ailleurs encore un petit mot qui revient très souvent. Je ne sais pas si ce petit mot a été remarqué, mais au début du chapitre, il est dit « Jésus donc ». Donc, 6 jours avant la Pâque, vint à Béthanie où était le mort que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit donc là un souper. Remarquez ce petit mot « donc ». Marthe servait. Au verset 3, Marie donc, ayant pris une livre de parfum de la pure de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Plusieurs passages soulignent ce petit mot. Donc, il faut qu'on sache que ce qui regarde le Seigneur Jésus, qui vient de ressusciter Lazare, il faut qu'on sache que chacun de ses pas, chacune de ses paroles, chacun de ses gestes compte. Et tout cela est souligné par ce petit mot « donc ». C'est pourquoi, dans le début de notre texte, il est dit « ceux-ci donc vinrent à ta fille ». Il y avait donc un désir bien marqué de savoir, d'apprendre quelque chose. Oh, chez les frères et sœurs, on sait beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, on a reçu beaucoup, on a reçu grâce sur grâce, dit Jean 1. La grâce et la vérité vinrent par Jésus. On s'y rappelait cela dans le cantique. Mais, chers amis, si cette grâce avait vraiment touché et rempli mon cœur, n'y aurait-il pas comme une effusion de reconnaissance et d'adoration? Enfin, Philippe et André conduisent ces Grecs à Jésus. Qu'est-ce que Jésus va dire à ceux qui désirent le voir? Est-ce que c'est l'après-midi, j'ai désiré voir Jésus, entendre un mot de sa part? Jésus leur répondit, disant, l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. À propos de ceux qui sont disponibles, j'aimerais dire un mot d'André. André, dans le premier chapitre de la Bible, c'est celui qui conduira quelqu'un à Jésus. André, c'est dans le chapitre 6 de cet évangile de Jean, sera le petit garçon qui a 5 pintes, 2 poissons, 5 pains d'orge, était bien souligné, et 2 poissons. C'est cette nourriture qui est bien faible pour nourrir des milliers de personnes, mais dans les mains et par la puissance du Seigneur Jésus, il y aura nourriture pour ces milliers de personnes. André est donc l'homme des circonstances. Et pourtant, ces petits 5 pains d'orge, même pas des pains blancs, et la foule sera nourrie. Chers amis, tous probablement, parmi les frères, en tout cas, appelés à se lever dans une assemblée, nous avons réalisé combien nous sommes petits. Comme André, alors qu'il n'a que 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais si c'est le Seigneur qui fait, qui donne ce qui doit être donné, il y aura bénédiction, il y aura nourriture, il y aura breuvage, selon les besoins du moment. Et alors, le Seigneur dit au verset 24, en vérité, je le dis. Des frères ont compté dans cet évangile de toutes les fois que cette expression revient à double. En vérité, comme si le sujet qui suit était d'une telle importance qu'il doit être introduit par cette expression qui est répétée. En vérité, eh bien voilà, grec, ce que j'ai à vous dire. Et voilà ce que nous avons chanté dans ce cantique 49. De ta mort, puissant sauveur, goûtez la sainte efficace, quelle ineffable douceur. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Eh bien, Je suis ce grain de blé qui tombe en terre, qui meurt, mais il ne veut pas demeurer seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup. Comment est-il possible, chers amis? Au travers de ce grain de blé qui tombe en terre et qui meurt, comment est-il possible qu'il y ait beaucoup de fruits portés? Est-ce que nous ne touchons pas là au miracle de la résurrection? Parce que dans le grain de blé qui meurt, il y a un germe. Je me souviens avoir entendu mon cher frère, qui était très jeune, nous parler de ce germe du grain de blé. C'est comme si le Seigneur disait à ses Grecs, oui, il y aura ma mort, elle sera accomplie à Jérusalem, mais il y aura la résurrection. Il y aura la victoire sur la mort et sur l'ennemi. Puissant sauveur, de ta mort, puissant sauveur. Est-ce que le Seigneur ne nous demande pas, comme à nouveau, bien-aimés, de nous arrêter devant la croix? Est-ce que le Seigneur ne désire pas qu'une fois encore les blessures dans les paumes de ses mains et dans ses pieds soient rappelées à nos esprits, à nos cœurs? Semaine après semaine, nous rappelons cette mort accomplie, je veux bien. Nous nous sommes peut-être habitués au cours des années. Nous le faisons avec reconnaissance, certainement, mais peut-être que l'habitude est là. Et nous réalisons un peu de loin ce que le Seigneur a connu, ce que le Seigneur a souffert de la part des créatures déjà. Mais la douleur suprême de l'abandon. C'est dans la mesure où la mort du Seigneur, où l'abandon, où la résurrection touche nos cœurs d'une façon constante que nous faisons alors des progrès dans la grâce et la connaissance de sa personne. Nous craignons que l'habitude prenne un peu le pas sur ce qui devrait souvent être réalisé dans la profondeur de notre être. Le grain de blé qui tombe en terre, qui meurt, mais le grain de blé qui en germe, qui fait penser à la résurrection. Il m'arrive quelquefois de citer quelques passages à propos de ce germe. Pas prolongé, mais en Ésaïe 4, nous avons déjà un mot, et nos frères en faisaient une application aux quatre évangiles. En Ésaïe 4, sauf erreur au verset 2, en ce jour-là, il y aura un germe de l'Éternel aux splendeurs et aux gloires, le fruit de la terre pour puissance et pour ornement. Il réchappait d'Israël, je n'enlève rien de ce qui est prophétique, bien sûr, mais je me souviens avoir entendu nos chers frères dire que nous touchons là à l'évangile de Jean spécialement. Honneur et gloire. Et puis, plus loin, en Jérémie, nous avons un passage. En Jérémie 23, qui touche alors un autre évangile. Nous lisons en Jérémie 23, au verset 5, « Voici les jours viennent, me dit l'Éternel, et je susciterai à David un germe juste, et il règnera en roi et prospérera, et exercera le jugement et la justice dans le pays. » Chacun comprend ici, bien sûr, que nous touchons à l'évangile de Matthieu, je chante au Messie, au roi qui règnera. Et ce passage est à souligner, bien sûr. Il y en a d'autres que je laisse de côté pour passer alors à Zacharie 3. Nous avons de nouveau un évangile qui est touché. Zacharie 3 et au verset 8. Écoute, Joshua, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui servent ici. Car voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Et vous remarquez que ce G majuscule, il va. Le germe, c'est une personne. Et c'est une personne qui porte le titre de serviteur. N'aurions-nous pas là, chers amis, l'évangile de Marc, qui est touché par ce passage. Quel serviteur que celui de l'évangile de Marc. Le serviteur dont nous parle les œuvres maintenant, qui s'est laissé percer l'oreille. J'aime mon maître, ma femme, mes enfants. Et alors, dans le chapitre 6 de ce même Zacharie, il y a un dernier passage. Au verset 12e, ainsi parle l'Éternel des armées, disant, voici un homme dont le nom est germe. Il germera de son propre lieu, bâtira le temple de l'Éternel. Un homme. Ne touchons-nous pas, bien-aimé, à l'évangile de Luc, celui qui est le fils de l'homme. L'évangile de la grâce universelle, comme d'aucuns l'ont souligné il y a bien longtemps déjà. L'évangile où nous avons le souper de la grâce, cette invitation remarquable du chapitre 14. Nous avons le souvenir au chapitre 22. Nous avons le repas de famille au chapitre 24. J'avais simplement à cœur de rappeler ces quatre passages de l'Ancien Testament pour bien souligner que ce qui compte dans nos vies, c'est que le grain de blé est tombé en terre, qu'il est mort, mais qu'il y a la victoire, qu'il y a le germe. Notre christianisme, confessons-le, chers amis, sera vrai, sera sincère, notre désir sera tourné vers le Seigneur dans la mesure où sa mort et sa résurrection touchent nos cœurs. Et cela d'une façon constante, non pas seulement le dimanche matin, quand nous sommes réunis en son nom pour rappeler sa mort. Un de nos chers frères qui méditait le psaume 45 quand j'étais enfant, il disait, le cœur bouillonne d'une bonne parole chez le psalmiste dans le psaume 45. Pourquoi? Parce que il y a une composition qui est produite, qui est donnée, et cette composition comprend un alinéa par jour de la semaine. C'est pourquoi le psalmiste dit dans le 45, mon cœur bouillonne d'une bonne parole, je dis ce que j'ai composé au sujet du roi. Un alinéa par jour de la semaine. Et puis, les questions, bien sûr, du Saint-Esprit qu'on lit. Et au verset 2 de ce psaume, les questions de la grâce et de la gloire du Seigneur Jésus, tu es plus beau que les fils des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres. Eh bien, au travers de ces quelques courts passages de Jean 12, j'aimerais que la personne du Seigneur soit devant nous, dans cette mort, dans cette victoire, mais aussi, bien sûr, dans cette exaltation à la droite de la majesté. Assieds-toi à ma droite. C'est le mode de Dieu le Père. que le Seigneur de main droite offrira, c'est ainsi, à la droite de la majesté. Nous avons cela dans l'Épître aux Hébreux. Plus loin, il est question de responsabilité, bien sûr, avec ce verset 25, ce verset 25, chacun peut assimiler et méditer pour soi. Et alors, dans le verset 26, si quelqu'un me sert, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Suivre et servir, vous le savez bien, sont deux verbes qui reviennent souvent dans la parole de Dieu. Il y a une parenté directe entre ces deux verbes, quelqu'un le disait souvent. Mais il est question de deux hommes. Dans le livre des Nombres, avec le rappel de Josué, je crois, question de deux hommes qui ont suivi pleinement l'Éternel. C'est Caleb et Josué. Nous avons ces deux noms dans Nombres 32 au verset 12. En contraste avec ceux qui n'ont pas suivi l'Éternel. Et pour nous qui réalisons par la grâce de Dieu ce qu'a été la mort de Christ, ce qu'a été sa victoire, que nous n'avons pas le désir de suivre Jésus et de servir Jésus. Mais Caleb et Josué ont suivi pleinement. C'est le seul passage, je crois, qui est répété par ailleurs, mais qui a cet adverbe pleinement. Et si la question des sœurs, j'aime aussi à toucher ce passage pour les encourager. Vous savez bien qu'à la fin des évangiles, mes chères sœurs, il est question des femmes qui ont suivi et servi le Seigneur depuis la Galilée jusqu'à la croix. Elles exposaient leur vie. Et même dans Jean 19, elles sont près de la croix. Leur nom a été gardé. J'aimerais, en rappelant ces choses, que nous soyons tous encouragés, frères et sœurs, bien sûr, à suivre le Seigneur et à le servir humblement dans ce qui est placé devant nous. Il ne nous demande pas l'impossible, il nous demande de porter notre regard sur lui qui marche devant nous. L'expression, nous l'avons dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la colonne de nuée, allée le jour devant le peuple à la fin d'Exode 13, la colonne de feu la nuit, et il y avait constance. Avons-nous réalisé, mes amis, que le Seigneur va devant nous? Joseph le dit déjà à ses frères, hein? Genèse 45, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Et alors en Exode 23, pour ne citer que quelques passages, mon ange ira devant toi, verset 20 et verset 23, en Exode 23. Et l'un des deux passages prend majuscule pour le mot ange. Souvenons-nous, chers amis, que celui qui est mort pour ôter nos péchés, les miens et vôtres, il va devant nous. Mon ange ira devant toi. Et dans le livre du Deutéronome, d'autres passages pourraient être cités. Et le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, en Jean 10, qu'il va devant ses brebis et que ses brebis le suivent? Dans le chapitre même où il rappelle qu'il est le bon berger, ce que nous avons chanté dans le cantique 49, « Je suis le bon berger », verset 14 de Jean 10, « Je connais les miens et je suis connu des miens comme le Père me connaît Et moi, je prenais le fait. Chers frères et sœurs, ce mot du Seigneur va nous encourager. Après avoir chanté, d'autant plus, le cantique 49, le bon berger a mis sa vie pour nous. Mais il dit, je connais les miens et je suis connu des miens. Un frère de votre pays nous disait, il y a fort longtemps, en Suisse, n'oublions jamais qu'il y a un aller-retour d'amour entre le cœur du Seigneur et le cœur de ses bien-aimés. Je te connais, mais tu me connais en retour. Tu sais ce que je suis. Tu sais ce qui s'est passé à Golgotha pour toi. Tu sais que l'ennemi a été vaincu, la mort est vaincue. Je serai avec toi. Je ne te laisserai point. Je ne t'oublierai point. Tu me connais, mais comme le Père me connaît, et moi je connais le Père. Chers amis, il semble que là, nous avons en Jean 10, 14, quelque chose de suprême. Le Seigneur, par sa mort et sa victoire, nous a amenés. C'est un sommet. Comme le Père me connaît, et moi je connais le Père. Un frère de Suisse qui s'exprimait d'une façon fort simple nous disait, nous sommes vus comme fondus dans l'amour de Dieu le Père, dans l'amour de Dieu le Fils, comme le Père me connaît. Et moi, je connais le Père. En chantant ce cantique 49, au bonheur inexprimable de t'avoir pour son berger, toujours tendre et secourable, ton cœur ne saurait changer. J'ai pensé citer simplement, en terminant, quelques courts passages où il est question de ce berger et de ses soins particulièrement. Toujours tendre et secourable, ton cœur ne saurait changer. En Deutéronome 2, puisque nous sommes à la fin d'une année où nous avons encore réalisé ce qu'est le berger, ce que sont ses soins, simplement citer un passage en Deutéronome 2 pour commencer au verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans toute l'œuvre de ta main. Il a connu ta marche par ce grand désert pendant ces 40 ans. L'Éternel, ton Dieu, a été avec toi. Tu n'as manqué de rien. Chers amis, à la fin de cette année, et en chantant ce cantique 49e, est-ce que nous n'avons pas réalisé dans nos esprits et dans nos cœurs la valeur de ces mots? Je veux bien qu'ils touchent Israël en un temps particulier, mais cela a été écrit pour notre instruction. Tu n'as manqué de rien, frère, sœur. Dans cette année où Jésus, mon sauveur, a pris soin de toi, jour par jour, moment après moment, malgré les inquiétudes, malgré la confusion, malgré les questions posées, malgré les choix à faire, les décisions à prendre, tu n'as manqué de rien. Et au chapitre 8 de ce même Deutéronome, il est question de tout à l'heure et de demain. Verset 9, un pays où tu ne mangeras pas ton pain dans la pauvreté, où tu ne manqueras de rien. Remarquons ces mots. Je répète aussi les questions d'aujourd'hui encore, de demain si nous sommes là. J'aimerais que ce mot du grand berger, du souverain pasteur des brebis, j'aimerais que ce mot nous encourage, chers amis. Tu ne manqueras de rien. Au bonheur inexprimable de t'avoir pour son berger. Pour le passé, tu n'as manqué de rien. Pour le futur, tu ne manqueras pas de rien. Et puis alors le mot du psalmiste auquel vous aurez pensé en chantant le cantique dans le psaume 23, bien sûr. Ce psaume que d'aucuns ici pourraient encore réciter, verser, en verser. Ce psaume qui a réjoui tant d'amis dans le cours des visites et des années durant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quel passage! Nous connaissons ce passage, et je le répète, chacun peut réciter les versets de ce psaume, mais en vivre la réalité par le cœur. Réaliser qu'il est mon berger, celui qui a donné sa vie pour moi, celui qui est le vainqueur de la mort, celui qui aujourd'hui peut-être va m'introduire dans la maison du Père où il a préparé des places. Il est mon berger. Une chère sœur à son lit de mort me disait, je lui ai coûté trop cher, il ne peut pas me laisser tomber, il ne peut pas me laisser à l'aventure. Je lui ai coûté trop cher. Il est mon berger. Il me fait reposer. Chacun peut méditer, bien sûr, le détail de ses versets. Il me mène à des eaux paisibles. Est-ce que je réalise comme croyant cela vraiment? Est-ce que je peux dire amen à chaque verset de ce psaume? Et puis, il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice. Oh mes amis, y aurait-il un croyant sur la terre qui n'ait jamais eu besoin de restauration, d'être conduit dans des sentiers de justice à cause du nom du Seigneur? Et puis, verset 4, « Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Dans les versets qui précèdent, il parle de son berger. Il. Et tout à coup, quand il est question de la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Chers amis, est-ce que ces quelques mots pourraient nous laisser insensibles? Nous sommes tenus devant un cercueil ces jours passés. Et que deux fois au cours de l'année qui se termine, tu es avec moi. C'est toi le vainqueur de la mort qui va m'introduire dans le lieu où des places ont été préparées par ta mort accomplie à Jérusalem. Et si je dois rester, t'as roulé de ton bâton de ton sol. Je sais que tu vas prendre soin de moi d'une façon particulière. T'as roulé déjà, lance la terre pour que je ne m'éloigne pas du troupeau. Le bâton, on indique que c'était pour le loup, mais quelquefois c'est peut-être pour que le berger fasse autre chose à la brebis. Pierre est récalcitrant, dit ses voix. Et alors nous avons ce verset 5. Tu te restes devant moi, tu me tardes, en la présence de mes ennemis. Parlons pas des ennemis qu'avait le psalmiste à ce moment-là, mais nous avons un ennemi, chers amis. Et quand il voit la parole de Dieu, cette table dressée qui fait penser à la nourriture et à la communion, vous savez, l'ennemi marque le pas, permettez que je le dise ainsi. Le Seigneur lui a dit, à plusieurs reprises, il est écrit, la parole. Pensons à cette table dressée, tu restes devant moi, une table, en la présence d'un ennemi qui ne supporte pas que des croyants à Saint-Sauveur rappellent sa défaite tous les dimanches. L'ennemi ne supporte pas cela. C'est pourquoi nous sommes parmi les croyants les plus visés, et nous rappelons sa défaite dimanche après dimanche.
Ma coupe est comble, je suis comblé. Grâce sur grâce, me la montre.
Et puis oui, la bonté et la gravité me suivront tous les jours de ma vie, mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Il me semble qu'à la suite de ce psaume, il y a comme une invitation du Seigneur dans le 34. C'est là que je terminerai. Nous allons ensemble ce cantique que nous avons chanté. Gonde de très grâce, tu nous prenais nom par nom, tu nous conduis sur tes traces vers la céleste maison. Dans le psaume 34, c'est un moment difficile pour le psalmiste, mais j'ai cherché l'Éternel, verset 4, qui m'a répondu, m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et alors ce verset 5, qui a marqué la vie de beaucoup de croyants, ils ont regardé vers lui, ils ont été illuminés, et leurs faces n'ont pas été confuses. Nous comprenons que le psalmiste dans le 71 dise « En toi, Éternel, j'ai mis ma confiance que je ne sois jamais confus. » Et dans ce même psaume 71, tu es mon attente, Seigneur Éternel, ma confiance. Dès ma jeunesse, verset 5. Et puis au verset 17, tu m'as enseigné dès ma jeunesse. Et alors, dans le 34, qui est sous nos yeux, remarquons ces versets 8 et 9. 7, 8 et 9. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon, bienheureux l'homme qui se confie en lui. L'homme, c'est-à-dire l'être humain, le mensch, bien heureux l'homme. Mais il faut goûter et il faut voir. J'aimerais que la réunion de cet après-midi soit un appel pour nous tous, chers amis, à goûter et à voir que le Seigneur est bon. Que le Seigneur va devant ses brebis. Que le Seigneur en prend soin. Et je répète ce que j'ai entendu dans des visites. Je lui ai coûté trop cher. Il ne peut pas me laisser à l'aventure. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Et puis, le verset qui suit. Craignez l'Éternel pour ses saints. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Quelle assurance, quelle certitude, quelle déclaration divine. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Et vous savez bien qu'en Luc 22, le Seigneur a envoyé des disciples annoncer les choses magnifiques de Dieu, sans qu'il y ait bien des choses à côté pour leur confort. Il leur demande au retour, « Avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Eh bien, frères et sœurs, je pense que tous nous connaissons le Seigneur, tous nous sommes arrêtés à ce côté-là devant celui qui a porté lui-même dans son corps sur la croix nos péchés, qu'il nous soit accordé la grâce de goûter et de voir, et en cela rendre grâce à Dieu pour son don inexprimable, avec le désir de croître, comme dit l'apôtre Pierre, à la fin de sa seconde épître, croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Sa bénédiction repose sur la chère assemblée locale, comme demandé dans la prière tout à l'heure, et sur les assemblées représentées.